Mes âmes et messieurs de la nation sainte, du royaume du Père éternel, aujourd'hui nous allons donner la vraie signification du royaume des royaumes que l'insaisissable Créateur avait existencié bien avant la création de ce monde physique, avant de revenir à Paul. En effet, pour conduire l'être humain qui devait naître dans le monde physique, le Créateur avait déjà donné existence à deux sortes de dieux qui devraient régner dans les chefs des êtres humains, à savoir le Père éternel, l'admirable conseiller véritable pour le compte de la vraie connaissance divine, pour le camp de la vraie connaissance divine, et Satan, le serpent ancien, le faux conseiller détestable. Il créa donc deux royaumes, l'un pour le Père éternel, celui de la vraie et réelle connaissance divine, et l'autre pour Satan la bête, celui des fausses et irréelles connaissances divines. Et cela comme lien entre les humains et le Créateur. Ces deux royaumes sont aussi deux mondes. Le monde de la vraie connaissance divine pour le Père éternel et celui des fausses et irréelles connaissances divines pour Satan le diable. Autant vous rappeler ici que le Père éternel et Satan ne sont pas des êtres individuels divins, revêtus des pouvoirs extraordinaires, mais des connaissances divinités. Le Père éternel, le prince du royaume des cieux du matin, est donc la connaissance divinité qui règne dans son royaume, autrement appelé Jérusalem connaissancielle. C'est le prince du monde de la lumière connaissancielle et Satan la bête, le prince du monde des cieux du soir. C'est le prince du monde des ténèbres connaissancielles. Nous avons donc d'un côté le royaume du Dieu puissant, le prince de la paix, c'est-à-dire du Père éternel, et d'un autre côté, le royaume des faux dieux puissants, le royaume du faux dieu puissant, du faux prince de la paix, entendez Satan la bête. Vous comprenez maintenant que le royaume de Dieu est le royaume de la vraie et réelle connaissance divine, c'est-à-dire le royaume de sa vraie connaissance divine, le Père éternel, ou de l'un de ses composants. Ainsi, en Israël, le Créateur avait institué en deux temps deux royaumes de Dieu avec les composants du Père éternel comme prince de la Jérusalem connaissancielle terrestre. Il s'agit de la parole mosaïque pour le premier royaume de Dieu avec cette révélation divine comme prince et de la parole christique pour le second royaume avec cette révélation Christ comme prince. Donc, il n'y a de royaume de Dieu sur terre que lorsque l'invisible Créateur envoie ou révèle sa parole vraie et réelle à l'humanité. Ce royaume n'est dirigé que par sa parole révélée et non par les êtres humains qui ne sont que ses porteurs. Vous réalisez que sur cette terre des hommes, il n'y a que deux royaumes ou deux mondes, les seuls dont le Créateur ait ordonné l'existence. Jésus déclare dans Matthieu 21, 43 ce qui suit. C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une autre nation qui en rendra les fruits. Jésus disait en substance que la révélation divine serait enlevée à Israël et qu'elle serait donnée à une autre nation qui en rendrait les fruits. C'est la raison pour laquelle, une fois Jésus et Jean le prophète passés, 2 millénaires durant, il n'y a plus eu en Israël ni parole révélée, ni prophète. Mais Jésus avait annoncé la venue imminente du royaume des cieux, c'est-à-dire du Père éternel, qui est dans les cieux connaissantiel. Il avait donc annoncé l'avenue de la connaissance divinité, Père éternel, à qui appartient le règne dans son royaume. On devait donc attendre le règne de la connaissance divinité Père, et non celui de quelqu'un d'autre ou de quoi que ce soit d'autre. Et Satan la bête, comme d'habitude, avait déjà concocté un faux royaume qui serait dirigé par Jésus corps physique, que ses adorateurs attendent impatiemment pour son règne dans le monde physique en tant que roi. Hélas pour eux, cette utopie ne restera que ce qu'elle est, une imagination déglinguée qui n'aura jamais lieu. Le royaume du Père éternel qui avait été annoncé vient d'être révélé aujourd'hui d'au-delà les fleuves de l'Éthiopie pour notre vraie adoption, notre vraie rédemption, notre vraie résurrection connaissancielle, notre connaissance éternelle. Et ce royaume n'est dirigé que par son prince, le Père éternel, qui est la vraie connaissance divinité. Vous comprenez donc qu'il n'existe que deux mondes, les seuls mondes que nous venons de citer et que l'on ne peut trouver que soit dans la mémoire du Créateur, soit dans les cerveaux humains. En dehors de ces deux endroits, il n'y a donc aucun autre monde qui soit. Le deuxième monde que le pasteur des néants et son équipage, ou la bête et ses adorateurs ont fabriqué, n'existe que dans leurs imaginations détraquées. Revenons maintenant à Paul. Dans l'audio passé, nous avons tous entendu les déclarations de Paul selon lesquelles toute la création avait été soumise à la vanité, à la corruption, et que toutes leurs prophéties et connaissances étaient partielles et appelées à disparaître à l'avenue de ce qui est parfait, à savoir à l'avenue de la révélation des fils de Dieu, c'est-à-dire du royaume du Père éternel que Jésus avait annoncé. C'est pourquoi toute la création, y compris les apôtres, l'attendait pour leur adoption, pour leur rédemption. Ce qui a mis Paul mal à l'aise, et pour se réconforter, il inventa une notion abracadabresque qui suit dans Romains 9, 24. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on encore l'espérer? Par l'effet de cette affirmation, Paul va fabriquer sa propre définition de la foi, la suivante dans Hébreux 11, 1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Est-ce vrai cela? Peut-on être sauvé en espérance? Et comment? N'est-ce pas une fausse foi? Prenons un exemple simple. Quelqu'un a un véhicule qui est en panne. On lui promet des pièces de rechange dans une année et on lui demande d'avoir la ferme assurance dans la promesse, de la promesse qu'on vient de lui faire, d'en avoir foi. Et cet homme, faisant foi en ses paroles, il se dit, mon véhicule est sauvé en espérance. Et dès aujourd'hui, elle démarre et roule, car j'en ai la foi. Je vous pose la question suivante. Ce véhicule, en dépit de la foi de son propriétaire, va-t-il démarrer et rouler sans les pièces de rechange? Comment qualifieriez-vous un tel homme? N'est-ce pas d'utopiste et d'irréaliste? Car il aura beau crier, son véhicule ne démarrera pas et ne roulera jamais sans les pièces de rechange. Alors, la vraie foi est la ferme assurance de ce que le Créateur promet et dont la visibilisation n'aura lieu qu'au temps fixé et ne sera donc ni avancée ni retardée. Paul a donc fait avaler à l'humanité des anacondas entiers, ce qui n'a fait qu'aggraver son enlisement dans les profondeurs de l'ignorance. C'est pourquoi, fort de sa conviction, il peut annoncer qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Or, ce qui devait effacer cette condamnation, c'est-à-dire la soumission à la vanité, à la corruption, entendez à la bête, c'est la révélation au Père éternel qui n'avait pas encore été révélée par le Créateur. Par quelle magie Paul a-t-il pu effacer cette condamnation du Créateur lui-même? N'est-ce pas de l'orgueil humain injustifié? Paul affirme que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ l'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Paul déclare que la création, les apôtres y compris, attendait la révélation Père éternel afin d'être affranchi de la servitude de la corruption, c'est-à-dire du péché et de la mort. Comment Paul peut-il se targuer d'être affranchi de la loi du péché et de la mort, tandis que l'esprit de vie, le Père éternel, n'avait pas encore été envoyé, c'est-à-dire révélé au monde? Avait-il pu s'introduire dans le cerveau du Créateur pour arracher le trésor que celui-ci avait caché soigneusement en lui et pour finalement le brandir au monde comme trophée? N'est-ce pas lunatique tout cela? Paul avance aussi que, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Donc, le corps physique rendait la loi sans force, dit-il. Un corps physique peut-il rendre sans force une loi divine et même une loi humaine? Et comment? Comment Dieu a-t-il condamné le péché dans le corps physique? Est-ce le corps physique de l'homme qui pèche ou les fausses connaissances qui sont dans son cerveau? Est-ce la voiture qui provoque des accidents ou son conducteur? Ne méprisez donc pas votre corps physique à cause de ces bobards, car le corps physique, c'est votre bien le plus précieux sur cette terre des hommes. C'est votre bien le plus précieux dans votre vie passagère sur cette terre. À cause du péché, Dieu a envoyé son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Mais quel est le Fils que le Père éternel, le Dieu puissant, avait envoyé? Le Père éternel, notre Dieu puissant, est une parole divinité. Et en tant que parole divinité, il ne peut qu'engendrer une parole divinité comme Fils. Et en tant que parole divinité, le Père éternel est sourd et aveugle. C'est donc le Créateur lui-même qui lui a fait éclore la parole divinité Fils, le Christ. Et c'est en ce moment-là que le Fils est sorti du Père pour venir dans le monde. Et pour venir dans le monde, il lui fallait un porteur qui lui servirait de bouche. C'est alors que le Créateur choisira Jésus pour lui servir de bouche et de porteur. Ainsi, à la fin de la mission de Jésus, la parole divinité Fils, entendez le Christ, rentra au Père d'où il était sorti. Jésus, corps physique, n'est donc jamais sorti du Père éternel, qui est une parole divinité. Et le Créateur n'avait jamais envoyé Jésus comme son Fils, mais plutôt comme porteur et bouche du Fils du Père éternel. Et comme le Père éternel, c'est lui l'homme connaissantiel, l'image de l'invisible Créateur, et son Fils qui avait été confié à Jésus afin qu'il le fît connaître au monde, et donc le Fils de l'homme que Jésus avait enseigné. Jésus fut donc le porteur et la bouche du Fils de l'homme connaissantiel. La révélation qui condamne le péché, c'est-à-dire les fausses connaissances divines, comme elles n'étaient pas encore parvenues au monde, le péché ne pouvait être condamné donc. Et d'ailleurs, Satan, la bête, poursuivait sa mission de domination sur tous les êtres humains. C'est donc tout faux ce que Paul avait déclaré. Retenez bien que le corps physique n'est pas le corps du péché. Ce qui pèse, c'est ce qui est dans le cerveau, le conducteur de l'être humain, le conducteur du corps physique. Paul renchérit en disant qu'il ne marche pas selon la chair, mais selon l'esprit. Or, selon quel esprit marche-t-il? Pendant que Dieu Esprit ou l'Esprit Dieu, le Père éternel, n'était pas encore révélé, c'est-à-dire disponibilisé. Il marchait donc selon le faux esprit que Dieu lui avait commis, selon l'ange de Satan qui le soufflait. Et en conséquence, il marchait donc selon la chair, selon les ignorances qui ne servent de rien, comme l'avait déclaré Jésus en parlant de la chair et de l'esprit qui vivait, c'est-à-dire qui donnait la vraie connaissance divine. Il ne pouvait donc vivre selon l'esprit, ni s'affectionner aux choses de l'esprit, car le Créateur ne les avait pas encore révélées. Paul dit que l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie. Cela revient à dire, de manière révélée, que l'affection des fausses connaissances divines, c'est l'ignorance, tandis que l'affection du Père éternel, c'est la connaissance. Paul dit encore que l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. En effet, l'affection de fausses connaissances divines est inimitié contre le Dieu puissant, le Père éternel, qui est la vraie et réelle connaissance divine. Les fausses connaissances ne se soumettent pas à la loi de l'esprit de vie, mais à celle de l'esprit de mort, Satan la bête. Et c'est ce que Paul avait dans son cerveau. Paul avance ensuite ce qui suit. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. C'est vrai, ceux qui vivent selon les fausses et irréelles connaissances divines ne sauraient plaire au Père éternel et surtout au Créateur qui nous incite entre le Père éternel et Satan à choisir l'esprit de vie, le Père éternel. Paul déclare encore ceci. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et vous voyez que Paul poursuit donc ses avancées erratiques. Comment des personnes qui sont jusque-là soumises à la bête, c'est-à-dire aux fausses connaissances divines, le péché, comment peuvent-ils marcher selon l'esprit du Créateur qui n'avait pas encore été envoyé? Dans les rêves ou quoi? L'esprit de Christ, c'est le Père éternel. Il ne pouvait donc pas l'avoir non plus. Paul poursuit. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais l'esprit est vie à cause de la justice. Le Christ, la parole Christ, ne pouvait être en personne, dans une personne, car comme l'avait annoncé Jésus, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a où reposer sa tête. Bien que le Créateur l'ait déjà annoncé, mais à leur époque, la parole Fils de l'homme ne pouvait être transcrite dans les cerveaux. Seules les fausses connaissances avaient ce pouvoir-là et ce droit-là pour y apposer la marque de la bête dans les cerveaux des hommes. C'est seulement maintenant, à l'heure du Père éternel, que la vraie parole divine va être apposée comme sceau de Dieu dans les cerveaux humains afin d'y remplacer la marque de la bête. Votre corps n'est pas mort à cause du péché. Votre corps vit. Que vous soyez avec le Père éternel ou avec Satan, votre corps physique restera en vie jusqu'à la fin naturelle de celui-ci. Et l'esprit n'est pas vie à cause de la justice, mais l'esprit est la vie éternelle, c'est-à-dire la connaissance éternelle depuis sa création. Paul continue. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Alors là, c'est le comble. Alors là, c'est le comble. Quel est cet esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts physiques? Quel est cet esprit? Or, vous savez déjà que l'esprit de Dieu véritable, c'est le Père éternel, qui est une connaissance divinité. Comment une connaissance divinité peut-elle ressusciter un corps physique? Et d'ailleurs, le Créateur envoie le Père éternel aujourd'hui pour accomplir notre toute première résurrection connaissancielle, et non celle des corps physiques, qui est une impossibilité éternelle. La résurrection des corps physiques ne le concerne donc pas. Et d'ailleurs, elle n'aura jamais lieu. Est-ce que Jésus est ressuscité d'entre les morts? Soyons normaux et non anormaux et réfléchissez. Lorsqu'un être humain meurt, nous voyons son corps inerte, son corps physique inerte. Mais après l'inhumation, nous ne le voyons plus. Nous ne voyons plus même la dépouille mortelle et nous ne le verrons plus jamais. Mais, de temps en temps, on peut le revoir dans des visions ou des songes que le Créateur nous projette. Et ce n'est pas lui que l'on voit, mais une forme qui lui ressemble, que le Créateur fait s'animer et parler. Il n'a donc là qu'une existence virtuelle et non concrète. Dans le concret, nous ne le verrons plus jamais. Mais avant son enterrement, s'il ressuscite, en tout cas, on va le revoir de nouveau être vivant, visible par tous et partout, marchant, mangeant et buvant, causant avec tout le monde. Quel que vous avez compris la résurrection d'un corps physique, une question s'impose. Un corps physique peut-il ressusciter invisible? Et si jamais il venait à ressusciter invisible, de quelle résurrection parlons-nous alors? Il ne s'agit plus de la résurrection de son corps physique. La bête et ses adorateurs, pendant 2 millénaires, nous ont imposé la résurrection invisible de Jésus. Est-ce que la résurrection invisible est la résurrection du corps physique? Cela peut-elle se passer ainsi? Jésus n'a plus jamais été visible après sa mort et son inhumation, sauf dans les visions et les songes, comme tous les autres humains décédés avant et après lui. D'ailleurs, pour aller où? La parole divinité Fils, qui lui avait été confiée par le Créateur, est depuis rentrée en son Père. La parole divinité Père. Et lui, Jésus, où va-t-il aller? C'est vrai que la bête, le pasteur des néants et les conciles avaient fabriqué leur fausse Sainte Trinité à partir du nom du Père, du Saint-Esprit et du Fils, en nous forçant d'accepter que ce Fils était Jésus. Et Jésus, corps physique. Ok. Mais le Père éternel n'est pas le Créateur, mais son Fils unique, qui est une parole divinité. Le Saint-Esprit est aussi une autre parole divinité que le Créateur. Fait éclore au Père éternel, David, c'est-à-dire son rejeton, son germe, qui décachète aujourd'hui l'ancienne Jérusalem, où toute la parole de la révélation divine d'hier. Et le Fils, c'est la troisième parole divinité que le Créateur avait fait éclore au Père éternel il y a 2 millénaires et confiée à Jésus pour son enseignement. S'ils avaient parlé d'une sainte Trinité, des paroles divinité, cela aurait été correct, car nous aurions eu une trinité homogène, concordante. Mais là, il nous présente une trinité avec deux paroles divinité et un corps physique. Quel drôle d'assemblage! C'est donc là un assemblage disparate de briques et de briques et de brocs, discordant et affreux. Cette fausse Sainte Trinité est donc nulle. Elle n'existe pas du tout. Et je demande ce que ferait Jésus entre deux paroles divinité. Comprenez donc de par vous-même. Paul poursuit. Ainsi, nous ne sommes point redevables pour vivre selon la chair. Non, ils sont redevables aux fausses connaissances divines et c'est pourquoi ils vivent selon elles. Mais si vous vivez selon la chair, vous mourrez, dit-il. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Non, 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 non. Si vous vivez selon les fausses paroles divines, vous vous enfoncez dans l'ignorance. Mais si par le Père éternel, vous faites mourir non les actions du corps physique, mais la bête et ses œuvres, alors vous aurez la vie éternelle en langage cacheté, la connaissance éternelle en langage décacheté. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, dit-il, sont fils de Dieu. À leur époque, ils ne pouvaient être conduits par l'Esprit de Dieu, le Père éternel, qui n'avait pas encore été donné ou révélé. Ils n'étaient donc pas les fils du Père éternel, notre Dieu puissant. Paul ajoute, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Oh! Mesdames et messieurs du royaume du Père éternel, c'est grave. Et c'est très grave. Voilà Paul qui attendait le Père éternel, l'Esprit Dieu, pour le délivrer avec toute la création, pour être affranchi de la servitude de Satan la bête, pour apporter la connaissance parfaite, pour l'adoption et la rédemption. Voilà ce même Paul qui, contradictoirement, brandit la parole divinité d'adoption dont il est dépourvu, puisque n'étant pas visibilisé, disponibilisé, quelle arrogance injustifiée! Et il ose même s'adresser à l'esprit d'adoption, le Père éternel, qui était encore caché en le Créateur. Paul était réellement sans vergogne. Il renchérit. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Non. Paul et toute sa bande n'étaient pas enfants du Père éternel. Comme toute la création, ils étaient enfants du diable, des ténèbres, comme tout le monde, car tous avaient été soumis, contre leur gré, au Père des mensonges. Ils étaient tous donc enfants de Satan la bête. Ils étaient donc héritiers des autres dieux et cohéritiers du dragon du ciel. Mais heureusement, pour nous, le Créateur vient de mettre à votre disposition le Père éternel, l'héritier du grand roi qu'il est, lui le Créateur, et vous exhorte à devenir enfant du Père éternel et être ainsi compté parmi les cohéritiers du Fils unique du grand roi. La portion des mets succulents qui vous a été réservée ce jour vient de s'épuiser. Ainsi, ce sera tout et merci beaucoup.